Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Est-ce que vous imaginez des Qataris arriver à Gaza avec 15 millions de dollars en liquide pour le Hamas, destiné à faire respirer Gaza, et ça tous les mois? Non seulement ça existe, mais Israël le sait pertinemment. Incroyable histoire, incroyable pacte de courte durée. D'ailleurs, vous allez voir, c'est Étienne Monin qui nous racontera ça, et c'est l'escale reportage ce soir. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Égypte, au Luxembourg et en Italie. 18h50, le cinéma en VO. Eva Bettan a vu si Bill Street pouvait parler, signé Barry Jenkins, oscarisé en 2017 pour Moonlight. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers, de Franck Madvon. Ce soir, vous verrez que Donald Trump et ses services de renseignement sont pas prêts à se réconcilier, et vous comprendrez pourquoi. Avant tout cela, nous partons pour le Venezuela qui bouge, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Le Venezuela a un tournant, peut-être, en tout cas avec la manifestation attendue cet après-midi qui va commencer incessamment. Bonsoir Paola Vasquez-Lessama.
Bonsoir.
Docteur en anthropologie, vous êtes chargée de recherche au CNRS. La dernière fois qu'on a parlé ensemble, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a une dizaine de jours. On s'était dit qu'il y avait des chances pour qu'on se revoie assez vite et que ça bouge. Au fond, on poursuit notre conversation. Le nombre de gens dans la rue sera important à compter. Les slogans qu'on va entendre, Paola Vasquez, est-ce que c'est les slogans qui disent Maduro dehors ou est-ce que c'est des slogans qui disent l'armée avec nous?
En fait, les deux. Il y a cette question de la loi d'amnistie qui a été extrêmement importante lors de la dernière manifestation. Et il y a quelque chose d'assez remarquable, je trouve, c'est que Guaido se montre comme un leader assez modéré, ce qui est très important dans un pays où il y a tellement de violences. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une répression très forte, surtout pas à Caracas, mais dans les villes moyennes. Donc, disons que pour l'instant, je pense que pour aujourd'hui, ils ont prévu une mode de manifester plutôt calme, tranquille, sans, c'est pas une marche, je pense que c'est comme des plantones, on dirait en espagnol.
C'est-à-dire que
ce sont des grands rassemblements un peu partout. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit tout à l'heure qu'ils entendaient des consignes, avec beaucoup de consignes variées, mais surtout un appel à la non-violence comme dans l'agenda politique de Guaido, en fait, de l'opposition.
Et bien justement, on va y aller tout de suite, en fait, dans les rues de Caracas pour voir effectivement comment ça se passe. Bonsoir, Sacha Colman. Okay.
Allô?
Eh oui, bonsoir.
Pardon,
bonsoir.
Je suis désolé.
Non, bonsoir Sacha. Vous êtes là et vous êtes en direct. Racontez-nous ce qui commence à se passer doucement à Caracas. Une manifestation qui va doucement bouger, un rassemblement qui va doucement bouger. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe autour de vous?
Alors écoutez, moi je suis dans un quartier d'affaires, hein, au centre de Caracas. Ça a commencé lentement mais sûrement, ce rassemblement. Les employés sont descendus des bureaux, les gens ont commencé à faire du bruit avec des sifflets, des casseroles, des klaxons. Une particularité d'ailleurs, ici c'est la voiture qui s'arrête et qui ne bouge plus, histoire de créer un petit bouchon et de bloquer la rue. Là où je me trouve, un peu en hauteur, on est monté à l'étage, j'aperçois le boulevard, un boulevard assez grand, quatre voies, il y a quelques minutes encore, des gigantesques drapeau aux couleurs du Venezuela couper la route et bloquer bien sûr la circulation. Alors toute la ville n'est pas bloquée, mais c'est vrai que les Vénézuéliens sont descendus dans la rue. Ils répondent à l'appel lancé par Guaido qui leur demandait de se manifester pour faire pression, et notamment sur le thème du jour, à savoir les militaires, afin qu'ils changent de camp.
Merci beaucoup, Sacha Colman. Vous poursuivez, évidemment, vous allez la suivre pour France Inter, cette manifestation, avec Gilles Brière à vos côtés pour les moyens techniques. Paola Vasquez, effectivement, on attend de savoir ce que vont faire les militaires qui, pour l'instant, restent fidèles à Maduro. On sait qu'il y en a une petite vingtaine, un peu plus, qui ont bougé il y a une dizaine de jours. Qu'est-ce qui peut faire flancher les militaires aujourd'hui?
Mais disons qu'il y a des facteurs à l'externe et à l'interne. À l'externe, c'est toute la question des sanctions des États-Unis et du pétrole. Ça les touche directement parce qu'il y a énormément de compagnies, voire une bonne partie de la compagnie pétrolière elle-même, de l'entreprise, pardon, pétrolière même, qui est gérée par les militaires.
Donc, et pas seulement d'ailleurs, l'administration pétrolière, dans le camp judiciaire, ils sont là aussi, au gouvernement, ils sont là aussi, ils sont moins nombreux qu'ils l'ont été, mais ils sont partout encore, les militaires.
Et surtout dans l'économie illégale, illicite. Mm-hmm. Bah, on les soupçonne fortement de narcotrafic. Il y a la question du trafic de l'or aussi, des minéraux de l'Amazonie. La question de la contrebande d'essence, les contrôles des frontières, c'est-à-dire ils ont une énorme quantité de ressources qui sont pas légales et pas déclarées et qui font et qui les font vivre d'une certaine manière. Et à l'interne, il y a d'autres choses encore, c'est-à-dire la possibilité de, c'est-à-dire là, il y a comme plusieurs choses. Il y a la non suivi des consignes de la répression, mais en même temps, il y a des affrontements locaux qui peuvent dégénérer dans des situations de violence et amener à des divisions internes.
Alors, non suivi, effectivement, est-ce que ça veut dire très concrètement qu'il peut y avoir un ordre de tirer sur la foule qui ne sera pas suivi par les militaires?
C'est ça la question. C'est-à-dire, dans une situation entre guillemets normale, dans ces régimes très répressifs, on serait déjà dans un état de siège et dans une suspension des garanties constitutionnelles et Guaido serait en prison. Or, tout cela ne s'est pas passé. Donc, c'est un peu par défaut qu'on a l'intuition que les choses vont pas bien du côté des forces de l'ordre. Mais ce sont des forces de l'ordre qui sont devenues très hétérogènes, qui suivent, on dirait qu'il y a cette fameuse chaîne de commandement qui est cassée quelque part ou à plusieurs endroits, en fait.
Si on leur donne l'immunité, qui leur donne l'immunité, au fond? Est-ce que Guaido a les moyens de faire ça ou est-ce que c'est un coup de fil qui vient des États-Unis qui dit les militaires sont exempts de tout reproche?
Non, c'est pas l'immunité. C'est une loi d'amnistie. Ça veut dire que les crimes seront jugés. Mm-hmm. Et c'est-à-dire qu'il va falloir faire ce qu'on appelle une justice transitionnelle, c'est-à-dire mettre en place des tribunaux. Mais amnistie ne veut pas dire impunité. Et donc là, c'est ça où ça devient intéressant pour les officiers et compliqué. Mais en même temps, c'est une solution pas radicale qu'il faut célébrer, en fait, qu'il faut vraiment applaudir parce que il faut éviter qu'il y ait des situations de représailles et des lynchages et ce type de situations que, pour lesquelles tout est donné en ce moment au Venezuela. De la violence de ce type-là.
Alors, on dit par exemple qu'il y a de l'aide humanitaire qui est prête et qui est là, mais de l'autre côté de la frontière. Est-ce que ça veut dire là aussi que c'est le rôle des militaires et ce serait un signe fort si les militaires distribuaient cette aide humanitaire? Est-ce qu'on attend ça ou pas?
Mais disons surtout que il y a plusieurs choses. Est-ce que le gouvernement de Maduro en place va permettre l'acheminement d'une aide humanitaire qui soit pas gérée par ses propres forces? Mm-hmm. Et là, toute la question de l'intervention de soldats et des forces armées, je les vois. On a un peu du mal à l'imaginer dans les contextes actuels, c'est-à-dire avec Maduro au pouvoir. Or, c'est crucial la question de l'aide humanitaire, car les gens sont extrêmement démunis, affamés, malades, etc. Et les militaires eux-mêmes, en tant que tels, ça a été l'une des manières d'exercer le pouvoir à Chavez, par la distribution des biens, des nourritures, des santé. C'est ce que j'ai appelé le militarisme compassionnel, qu'aujourd'hui il n'est pas compassionnel du tout, c'est le militarisme tout court qui est resté. Donc si vous voulez, je pense que s'ils voulaient le faire, on pourrait compter avec ça, mais dans les cadres de la direction actuelle de l'état-major vénézuélien, je pense que on peut pas penser que ça sera possible. En tout cas, les délais, c'est l'une des manières de faire pression, en fait, au gouvernement.
On parlait des Américains à l'instant. Le soutien à Guaido, il est clair. Il y a même eu un message, un appel téléphonique même de Trump extrêmement récemment, là, il y a quelques minutes seulement, qui menace de nouvelles sanctions, qui menace de couper les vivres pétrolières, en quelque sorte, pour étouffer le régime. Est-ce que c'est pas à double tranchant de le dire si fort? Est-ce qu'on ne risque pas d'indisposer une partie de la population, y compris celle qui est favorable à Guaido? Parce qu'on a un peu le sentiment d'un retour dans les années 80, à l'époque où la CIA faisait la pluie et le beau temps en Amérique du Sud et Amérique centrale.
C'est oui et non. C'est-à-dire que la population vénézuélienne est dans un état psychologique de on ne peut pas perdre encore plus car on a tout perdu déjà. Ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire ce n'est pas un embargo, les sanctions. Ça, c'est la première chose à dire. Ce n'est pas un embargo et c'est une population qui est déjà dans un état critique extrême. Et il y a une autre chose, c'est une interdépendance, la question de l'économie pétrolière. Elle n'est pas unilatérale. Mmh. Il y a beaucoup de sociétés américaines qui dépendent de la question du pétrole vénézuélien et qui ont été, c'est de l'argent que le gouvernement vénézuélien doit à beaucoup de monde. Mmh. C'est les créanciers qui sont en train de parler là. On n'est pas dans la politique. On on n'est pas dans l'idéologie, on est vraiment dans l'économie. Il y a toute une série de créanciers, même la Russie.
Bien sûr, la Russie et la Chine.
Qui réclament leur
et qui ont très peur de ne pas retrouver leur argent.
Qui ont très peur de ne pas retrouver leur argent. Donc, pour l'instant, ça concerne surtout la question de l'échange pétrolier. C'était le troisième fournisseur, je crois, de pétrole aux États-Unis. Et c'est l'économie pétrolière, elle est complexe parce que la raffinerie, les grandes raffineries vénézuéliennes qui sont aux États-Unis, c'est un capital mixte américain, vénézuélien, etc. Donc,
parce qu'on ne raffine pas, en fait.
On ne raffine pas au Venezuela. On raffine via cette entreprise Citgo qui est dans le sud des États-Unis. Bref, c'est une configuration complexe des ramifications. C'est un réseau économique qui est en train d'être touché et qui est les sources des revenus fondamentaux du gouvernement de Maduro.
Mais alors quand même, sur le plan politique, protéger Guaido comme le font les Américains, le protéger de si près, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de le faire passer pour un homme de paille, en quelque sorte? Est-ce que ça joue vraiment pour lui dans l'avenir?
En même temps, c'est son ange gardien aussi. C'est la seule garantie qu'il ne soit pas en prison. C'est-à-dire ils ont réussi à faire, c'est pour ça que je suis assez sceptique de cette sorte de glorification de la spontanéité. Et là, il fallait vraiment planifier ça et chercher des alliés forts pour avoir le soutien nécessaire. Ça ne veut pas dire que les alliés forts soient les alliés idéaux. Ce ne sont pas les alliés qu'on voudrait bien avoir dans cette situation-là. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans un moment de réel politique total. C'est-à-dire qu'il faut chercher celui qui peut vous protéger.
Alors aujourd'hui, les deux parties ne se parlent pas du tout. On sent bien que c'est un espèce de jeu de en attendant que l'autre plie, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un débouché sans heurts possible, une sortie d'impasse? Ce que dit Maduro, c'est des élections, moi je veux bien, mais des législatives d'accord, des présidentielles non, il faudra attendre 2025. Donc est-ce qu'il y a une sortie sans heurts, selon vous, possible?
Je pense que oui, en tout cas, il faut parier ça en tant qu'intellectuel et humaniste, c'est-à-dire on ne peut pas parier pour une solution militaire. Et de toute façon, je ne vois pas que les forces des armées vénézuéliennes soient en train de préparer cela. Je pense qu'ils sont en train plutôt de préparer leur sortie que leur guerre interne. Et c'est une situation qui peut dégénérer, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un peu l'espoir, c'est une sortie négociée, pacifique, mais pas dans les termes de Maduro, c'est-à-dire cette question de législative, c'est un piège.
Bien sûr.
Parce que l'Assemblée nationale constituante ne peut pas convoquer à des élections.
Et puis surtout,
ils n'ont pas les compétences pour ça. Ce serait l'Assemblée nationale d'opposition. Et l'Assemblée nationale d'opposition, elle est là, elle est en train de gouverner.
Et elle est d'opposition, donc elle n'a absolument aucun intérêt à se laisser dissoudre en quelque sorte, puisque c'est elle pour l'instant qui mène la danse. Est-ce que c'est l'homme de la circonstance ou c'est l'homme de l'avenir, Guaido, à votre avis?
C'est extrêmement intéressant comme leadership, comme la manière dont il s'est construit, parce qu'il n'a pas les passifs des ressentiments de cette opposition ancienne. Et il a su parler à des secteurs qui s'appellent pas. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire cette capacité même à une dissidence chaviste. Il a la manière de s'adresser à cette dissidence chaviste qu'on ne voit pas clairement définie parce que la répression encore, elle est importante. Et surtout, il a su monter les coups politiques de la répression. C'est-à-dire réprimer en ces moments pour le gouvernement vénézuélien serait extrêmement cher, serait extrêmement difficile. Et il a su monter les coups politiques de la répression. Et ça, personne n'avait réussi à faire ça jusque-là.
Mais ça veut dire que c'est lui qui prend la main derrière. Est-ce qu'on peut imaginer ça au Venezuela ou est-ce qu'au contraire, une fois qu'il a fait cette espèce d'union, effectivement, vous le disiez, qu'il a parlé à ceux auxquels on ne parlait pas avant, qu'il a même réussi à regrouper l'opposition, ce qui n'était pas une mince affaire. Ensuite, il se retire. Est-ce que vous le sentez ambitieux pour aller bien plus haut ou pas?
Il est assez intelligent pour se montrer prudent et modéré. Pour l'instant, il ne parle que la fin de l'usurpation et l'organisation de la transition et l'organisation des nouvelles élections via un nouveau conseil électoral, etc. Et organiser les élections, c'est pas si facile que ça et ça sera pas rapide. Mais il montre pas ses ambitions, mais il est investi d'un tel charisme que tout le monde le pense déjà comme candidat, mais il faut pas le dire, en fait. C'est trop tôt pour ça parce que je pense que l'une des signes de maturité de l'opposition vénézuélienne et du Venezuela tout court, c'est que les triomphalismes, les messianismes doivent être un peu bannis du vocabulaire et de l'imaginaire politique.
Parce que l'une des raisons pour lesquelles je vous pose la question, et ce sera la dernière, c'est que quand on regarde tous les voisins, si demain il y avait une nouvelle élection, à l'exception notable du Mexique, effectivement ces derniers mois, mais la gauche a été battue en Amérique du Sud, le dernier exemple c'est Bolsonaro au Brésil, donc battue de quelle manière en fait? À quoi ça ressemble un un Venezuela sans Maduro, un Venezuela qui voterait complètement à côté. À quoi ça ressemble, en fait? Est-ce que c'est aussi une droite qui prendrait le pouvoir? Est-ce qu'il y a une sorte de Bolsonaro qui existe au Venezuela aussi? Ça ressemblera à quoi?
Mais disons que c'est une société complètement dissolue. Il y a le tissu social, il est complètement à refaire. Il y a un manque de confiance énorme. Il faut rétablir, je ne sais pas, les formes de paiement, de régler ses courses. C'est-à-dire, le travail est tellement tel que la question des positionnements idéologiques n'est pas très pertinente. Car tout va se passer par un énorme investissement de la part de l'État. Il n'y a pas une économie privée qui puisse assumer les coûts de reconstruire l'économie. Donc, l'État sera toujours là. Donc, parler de libéralisme et néolibéralisme n'a aucun sens parce qu'il n'y a même pas un marché que rétablir. Donc, je pense que le rôle de l'État sera extrêmement important et que Guaido, pour l'instant, défend un État profondément social et inclusif.
Et en tout cas, il y a d'autres, bien d'autres étapes avant, effectivement, notamment la prochaine manifestation au début du mois de février. C'est le 3, c'est ça?
Est-ce que
c'est
samedi.
Samedi. Heureusement que Franck Moindevant est là. Oui. Voilà. Samedi et puis le 12. Et puis j'ajoute, Paula Vasquez, merci beaucoup. J'ajoute aussi que deux journalistes chiliens ont été emprisonnés et deux journalistes français de l'émission Quotidien sur TMC, donc l'ont été aussi au Venezuela. Et évidemment, on suit ça d'extrêmement près. Merci beaucoup. Et j'allais presque dire à dans 10 jours. Alors, merci.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
À la suite d'un jour dans le monde, ça se passe à Gaza avec un échange d'argent pour une paix relative. Ça se passe avec des chiens en Égypte, des sardines au Luxembourg, de l'huile d'olive en Italie. C'est sous les radars avec Amélie Perrier. Le cinéma en VO et Eva Bétan. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Barry Jenkins, qu'on avait laissé derrière nous avec Moonlight il y a 2 ans. Le revoilà.
Avec un film qui s'appelle « Si Beale Street pouvait parler », l'amour autant de ce choléra que le racisme, mais il n'est pas sûr que ces temps soient révolus.
Et à tout à l'heure, le monde à l'envers. Et Franck Madvon, bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne.
Les pays dangereux et à surveiller que pointent les services de renseignement ne sont pas ceux que Trump pointe régulièrement du doigt.
Ben oui, c'est ça. Les services de renseignement ont publié hier leur estimation des grandes menaces mondiales et leurs analyses n'ont rien à voir avec celles de Trump.
Voilà, ça colle pas. 18h55, Franck, à tout à l'heure. Le tour de la planète n'est pas fini, évidemment. Il passe par l'Oklahoma, tiens, c'est là qu'est né Gigi Kale, After Midnight.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is a whole haven. After midnight, we're gonna let it all hang. Talking suspicion, give an exhibition, find out what it is on lay back. After midnight, we're gonna let it all hang out.
After midnight, chante Gigi Kale, ça date de 72, la préhistoire en quelque sorte pour vous, Amélie Perrier.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je rasmache au capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Ouais, quasiment.
N'en profitez pas. Direction Le Caire en Égypte. On connaît les embouteillages monstres de la capitale, Amélie.
Les problèmes de pollution également, la gestion quasi inexistante des déchets. Autre défi de taille, les chiens
errants, les chiens baladis, comme on le dit dans le dialecte égyptien. Et les morsures se multiplient, 231 victimes sont mortes depuis 2014, car certains chiens sont porteurs de la rage, et la morsure, dans ce cas, peut être fatale en 24 heures. Alors quand je suis allée me faire soigner, raconte Ala Ila, une habitante du Caire victime d'un chien, j'étais sur une liste d'attente, j'étais la 9e personne mordue par le même chien. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais selon un vétérinaire de la SPA égyptienne, le pays compterait plus de 15 millions de chiens errants. Dans les quartiers animés du centre, les animaux restent craintifs, mais dans les faubourgs mal éclairés, envahis par les poubelles, ils peuvent être très bruyants et agressifs. En fait, les baladies prolifèrent depuis la révolution de 2011, car le ramassage des déchets ne se fait plus. Aujourd'hui, l'Égypte débat donc pour mettre un terme au problème. Le gouvernement n'a prévu aucun plan spécifique. Certains gouvernorats promettent des récompenses à ceux qui les capturent. Les défenseurs des animaux s'élèvent, eux, contre l'utilisation de méthodes plus radicales, les armes à feu ou alors le poison. Une députée a même proposé récemment d'exporter des chiens vers les pays asiatiques où là-bas ils seront mangés. Un refuge lui propose de stériliser les chiens recueillis, mais il manque cruellement de fonds et le ministère refuse de l'aider pour l'instant.
L'hiver est bien là, et si le meilleur ami de l'homme par grand froid n'était pas le chien,
mais plutôt la sardine, séquence nostalgie de la pub.
Mon père aimait déjà ça, et mes oncles, Lucien, Adrien.
Et ta sœur.
Et ma sœur.
Sardine Parmentier, mettons la tradition en boîte.
Oui, tout le monde aime ça, les sardines. Mais et c'est bien sorti ça. Tradition 1989, oui. C'est un geste de solidarité aussi, la sardine. Depuis plus d'un an, un collectif au Luxembourg s'est baptisé des sardines pour les sans-toit. Les volontaires viennent en aide aux SDF et le principe est simple. Pour aider, vous déposez des boîtes de sardines dans des collecteurs, comme des grosses boîtes aux lettres. Chaque mois, les dons sont redistribués aux réfugiés de Bruxelles, Paris ou Calais, ou aux sans-abri d'Arlon en Belgique, ou encore au resto du cœur. Alors au départ, une seule boîte de collecte, mais ça fonctionne tellement bien que l'on en compte aujourd'hui une trentaine dans la région. Le collectif récolte chaque mois un millier de boîtes de sardines. Et quand on demande à Dominique Grèce, l'initiateur du projet, pourquoi des sardines, il répond qu'au départ, c'était pour qu'elles rentrent dans la boîte de collecte. Et oui, c'est plus facile. Et finalement, il y a vu d'autres avantages. C'est facile à transporter, c'est facile à manger aussi, juste avec un bout de pain et sans couvert. Et puis, c'est très protéiné. Donc la sardine, c'est l'aliment miracle voilà, de l'hiver.
On passe de la sardine à l'huile.
Oui, logique. L'huile d'olive, nectar et trésor de l'Italie, comme le dit ce producteur au milieu de son champ. Alors voilà, des producteurs italiens qui n'ont pas du tout le sourire aujourd'hui à l'heure des comptes. Ils viennent de traverser l'une des pires années de leur histoire. L'Italie fait les frais là aussi des conditions météo. La production du précieux liquide a chuté de 57%, de plus de la moitié. On est passé de 185 000 tonnes en 2018 contre près de 430 000 tonnes l'année d'avant. La principale région concernée, les Pouilles dans le sud de l'Italie, où la moitié de l'huile est produite, a vu ses rendements chuter de 65%. C'est impressionnant. Les gelées, la neige du mois de mars et puis une bactérie Xylella qui a touché les oliviers sont les principales responsables. Et comme pour tout produit de plus en plus rare, eh bien les prix s'envolent. 40% de hausse des prix entre juin et décembre. Mais les cours ne peuvent pas s'emballer non plus car la concurrence étrangère est rude, notamment celle de l'Espagne. En Grèce ou en Tunisie, là, les récoltes n'ont pas été bonnes non plus. La Grèce a perdu 30 à 40% de son huile par rapport à l'an dernier.
Mais de l'huile.
Ah bah oui.
Facile. Voilà, c'était juste pour me faire plaisir.
Ouais, facile.
Souvenir.
Comme vous dites.
93-94.
Voilà, c'est moins vieux que la pub de la sardine de tout à l'heure.
Oh,
c'est mieux d'ailleurs
petits,
aussi.
On était petits.
Non bah oui, parlez pour vous. Allez, merci beaucoup Amélie Perry. À demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est à Gaza que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, à Gaza, pour une affaire d'échange de billets qui ressemble à un mauvais polar. Imaginez la scène, elle se répète tous les mois depuis début novembre. Un envoyé du Qatar entre à Gaza, il a la bénédiction d'Israël pour ça, et il livre des valises de billets aux employés du Hamas. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
La bénédiction d'Israël, donc, qui sait où et à qui cet argent est versé, alors que le Hamas est considéré comme groupe terroriste, c'est un moyen pour maintenir l'enclave hors de l'eau. Ça assure à Israël une forme de tranquillité à bas coût, mais ça renforce évidemment l'emprise du Hamas sur la bande de Gaza. Et ça n'offre pas non plus de solution à long terme pour cet endroit qui est coupé du monde par le blocus israélien et par la frontière égyptienne. Étienne, vous nous emmenez dans ce polar sidérant.
dans un décor de sable près de la frontière israélienne, au milieu d'une foule cernée par les smartphones, le porteur de valise qatari scelle un pacte avec le numéro 2 du Hamas. On est début décembre, la deuxième livraison de billets est arrivée dans l'enclave, la distribution se fait en dollars dans les bureaux de poste pour les employés du Hamas. C'est une bulle d'air, les fonctionnaires sont payés au lance-pierre depuis des années, la pression devenait de plus en plus forte, dit Abou Hassem, fonctionnaire dans un ministère.
Cela crée du désespoir. D'accord, on a la responsabilité de servir les gens, et c'est notre devoir. Mais en même temps, le fait de ne pas avoir de salaire, c'est un vrai problème, et c'est compliqué de vivre comme cela. Ce que fait le Qatar pour nous, c'est très bien, mais ça n'est pas suffisant.
L'idée, c'est d'éviter une explosion à Gaza. Un peu avant, l'ONU avait embarqué le Qatar dans un premier projet pour relancer notamment la production d'électricité. L'émirat a élargi son soutien financier aux petites mains du Hamas. Chaque mois, un émissaire passe donc la frontière israélienne avec des valises de billets. Le pactole est de 15 millions de dollars. Le pacte, c'est qu'en échange, le Hamas maintienne le calme à Gaza. L'accord concerne trois acteurs principaux, le Qatar, le Hamas et Israël, explique le politologue Mouremar Aboussada.
L'intervention qatari dans la bande de Gaza satisfait toutes les parties. La frontière entre Gaza et Israël est plutôt calme. Ça satisfait les besoins d'Israël, spécialement au moment où le pays approche des élections anticipées du 9 avril. Ça remplit aussi les demandes du Hamas, qui peut payer les salaires de ses employés et faire venir du fioul pour les Palestiniens dans Gaza. Au fond, ça maintient le Hamas et son gouvernement en vie en attendant un nouveau miracle. Et ça satisfait aussi les ambitions des Qataris qui veulent tenir un rôle régional.
Depuis, la vie n'a pas été transformée à Gaza, l'enclave continue son naufrage, mais grâce à l'ONU, la quantité d'électricité a plus que doublé, et grâce à ses valises de billets, un calme relatif et précaire a tenu pendant plusieurs semaines avec Israël. Le Hamas a respecté sa part, c'est aussi un ballon d'essai pour mesurer sa capacité à négocier plus sérieusement, plus en profondeur. Mais l'horizon s'arrête là, l'aide a été calibrée pour 6 mois. L'étape suivante, comme souvent à Gaza, c'est l'inconnu. L'ancien ministre Hamas des Affaires étrangères, Razi Ahmad, avoue qu'il n'y a pas de visibilité.
Jusqu'à présent, on ne sait pas. Mais on discute avec des acteurs internationaux, comme le coordinateur spécial de l'ONU, comme les Qataris, les Égyptiens, pour essayer de faire en sorte que l'assistance continue. Parce que si les Qataris ou les soutiens internationaux s'arrêtent à Gaza, la situation va s'aggraver. C'est difficile de penser que les gens vont pouvoir survivre sans l'aide internationale.
Ce qu'apporte aujourd'hui le Qatar, c'est en quelque sorte une assistance respiratoire. Elle est devenue nécessaire après un cycle de sanctions financières décidées par le président palestinien. Mais en contournant l'autorité palestinienne, ce dispositif brûle un peu plus ce qui restait de lien avec Ramallah. Atef Abou Saïf est écrivain, farouche et courageux porte-voix du parti présidentiel à Gaza.
Pouring money into Gaza.
Verser de l'argent à Gaza sans consulter le gouvernement légitime des Palestiniens, c'est une façon de pousser Gaza vers l'indépendance. C'est une façon de l'amener vers ça. Mais c'est de l'argent pour le Hamas, pas pour la population. Ceux qui versent cet argent veulent que la bureaucratie du Hamas et ses structures continuent de fonctionner. Ils veulent que le Hamas reste au pouvoir, et c'est ce qu'Israël souhaite.
Le levier sur lequel le Hamas s'est appuyé pour court-circuiter le pouvoir palestinien, c'est la marche du retour. Des manifestations à répétition qui ont empoisonné l'été des Israéliens et écorné l'image de Benjamin Netanyahou. Cette marche du retour a été très violemment réprimée par les soldats israéliens. Plus de 250 Palestiniens sont morts, plus de 6000 ont été grièvement blessés par balles, d'où la grande fragilité du pacte passé avec le Qatar. Il met le Hamas dans une position intenable à la longue, soupçonné d'entretenir un statu quo qui profite au premier ministre israélien. Omar Chaban est un important représentant de la société civile à Gaza. Il dirige Palfink, un centre de réflexion.
There is
Il y a beaucoup de colère dans la société palestinienne à cause de ça. Parce qu'ils ont le sentiment qu'on a été vendu à bas prix. C'est pour un horizon politique qu'on devrait se battre, même si on a besoin de cet argent. C'est un soutien très faible. C'est une intervention partielle et ça ne tient pas sur la durée. On doit faire autre chose pour aider les entreprises, pour aider les agriculteurs et pour créer des emplois pour les jeunes qui deviennent radicaux.
Le processus a d'ailleurs déraillé en fin de semaine dernière. Le Hamas a refusé les fonds apportés par l'émissaire qatari, officiellement pour protester contre des freins mis sur son chemin par le gouvernement israélien. Le pacte aura tenu 2 mois. L'argent est maintenant reversé à l'ONU pour le programme humanitaire.
Étienne Monin à Gaza pour Un jour dans le monde. Merci Étienne. Les Londoniens de Jungle sont sur France Inter. Beat 54 à découvrir, c'est dans la playlist de France Inter. One love, you're heading on your own love. Time not to be there. She says she won't care. Now you have something. Before you had nothing. I don't want to care. But your love's real. And it's an odd thing. I cannot be your whole world. We sit on the fake grass. And I won't believe that. And I never had enough for you. But you said someone will come and replace me. How can you replace me? While it's true, it's all good now. When there's nothing, 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 that's all that you and mine. And these tears fall in the sunlight. When there's nothing. Don't stop, the video stop. Please don't stop, the video stop. One love, you're heading on your own love. Time not to be there. She says she won't care. Now you have something. Before you had nothing. I don't want to care. But your love's real. And it's an odd thing. I cannot be a whole world. You sit on the fake grass. And I won't believe that. And I never had enough for you. But you said someone will come and replace me. How can you replace me? Why it's true. Ça s'appelle Jungle et la chanson s'appelle Beat 54.
3, 2, 1, Twitter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jour.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO, comme tous les mercredis, et Eva Bettan. Eva, voici un cinéaste quasi inconnu, hein, avant l'Oscar du meilleur film en 2017 pour Moonlight. Barry Jenkins est devenu d'un coup un cinéaste et un homme qui compte.
Tout à fait.
Un cinéaste noir dont la parole a du poids, c'est important de le dire. Cette fois, Barry Jenkins adapte un livre du grand James Baldwin, L'histoire d'amour et de racisme. Le film s'appelle Si Beale Street pouvait parler.
Si Beale Street.
Si Beale Street,
non,
dit quoi?
Beatles.
Pas Beatles.
Non, non, Beale Street.
Pouf, pouf. Si Beale Street pouvait parler, bande annonce.
Mm-hmm.
You ready for this?
I've never been more ready for anything in my whole life. You know I love you. No matter what happens.
I'm yours in your mind and that's it. You and me all the time.
Honey. There's something I gotta tell you.
Voilà, Donc je vais le refaire comme si personne nous avait écouté, si Beale Street pouvait parler.
Exactement. Vous savez, l'image que nous avons de, du cinéma de Barry Jenkins, elle tient à un météore, à cet ovni qui était Moonlight, comment être noir et être gay. Alors j'ai toujours très peur d'employer le mot poétique parce que je sais que c'est un mot qui fait fuir. Mais disons que le réalisme n'est pas la manière que de Barry Jenkins de faire du cinéma, et ici non plus, alors qu'il parle d'une injustice majeure, du racisme. Un jeune homme noir est accusé à tort d'un crime. Mais auparavant, on aura vu cet homme avec les yeux de l'amour, du plus bel amour qui soit, le premier amour, celui que lui porte, et il le lui rend, une jeune fille de 19 ans. À ce jeune amoureux, il va donner tout. Il va donner la grâce, il va donner la beauté, il va donner de l'amour partout, une famille aimante. Il va montrer des gens du peuple, des gens modestes, qui vivent décemment, qui se comportent décemment, qui sont habillés d'une manière stylisée. Elle porte une sorte de cape jaune en permanence. C'est une manière de répondre discrètement aux stéréotypes, d'aller contre les stéréotypes qui sont d'habitude accolés aux noirs. Alors vous allez voir, c'est de cette manière que nous arrive l'injustice, mais c'est par ellipse. C'est pas du tout le genre film d'enquête. C'est même pas la peine, puisque pour les blancs, il est coupable, il est noir. Donc la question n'est pas de vous le prouver, c'est de vous montrer au contraire cette sorte de fatalité qui s'appuie sur eux. Et c'est là où la forme est extrêmement intelligente. Et il pointe de cette manière-là, qui est très subtile, qui est très stylisée, il pointe une injustice majeure. C'est le racisme où il se niche aussi, c'est dans le rapport des Noirs à la police et à la justice. Et ça, ça existe toujours aujourd'hui. Écoutez l'analyse de Barry Jenkins.
C'est un des problèmes les plus importants que les Noirs ont à affronter. Il s'agit de systèmes qui sont apparus au cours des 50 dernières années. Le système policier et le système judiciaire, les deux étant liés au business. Le système pénitentiaire est une institution qui a été beaucoup privatisée. Et à cause de cela, existe le concept de l'offre et de la demande. Malheureusement, la demande est assez importante, et donc, les jeunes Noirs sont devenus la source d'approvisionnement. Les histoires comme celles qui arrivent aux personnages du film ne sont pas si rares que cela. C'était important de mettre en lumière cet aspect de la société, car le nombre de ces problèmes sont toujours d'actualité.
Vous faites ce film dans l'Amérique de Trump. Il sort maintenant. Ça a un poids particulier.
Le livre a été publié il y a 45 ans. Depuis, il a traversé les présidences de Carter, Bush, Reagan, Bush-fils, Obama. Les présidences de tous ces gens. Il se trouve que Trump est président aujourd'hui. Je ne crois pas que cela dise quelque chose de particulier de l'Amérique de Trump. Bien que ce que l'on puisse dire, c'est « Donald Trump a dit « Rendons sa grandeur à l'Amérique ». Ce livre a donc été publié il y a 45 ans. Et nous avons toujours les mêmes problèmes. Quelle idée de la grandeur de l'Amérique avons-nous? On pourrait se mettre à y réfléchir, non?
Eva, Barry Jenkins, cinéaste noir et oscarisé, donc évidemment, il est beaucoup plus écouté lorsqu'il parle d'injustice.
Oui, alors il est jeune, il a 40 ans cette année. Il n'a pas, c'est son troisième film, donc il a une envergure qui lui est donnée, qui est certaine et dont il est conscient. Mais ce n'est pas du tout un militantisme, j'ai envie de dire, de rupture, comme l'a été Spike Lee à sa grande époque. On peut aussi nous interroger, est-ce que parce qu'on est noir, on doit forcément être politisé, etc. Ceci étant, il assume. Et je lui ai demandé très simplement si le fait d'être célèbre avait accru son sentiment de responsabilité. Sa réponse est complexe, c'est une réponse d'artiste. Suivez-le.
Il ne me semble pas avoir plus de responsabilité depuis que j'ai gagné l'Oscar. Comme une personne noire, comme un homme noir, et troisièmement comme un artiste noir. J'ai toujours été conscient de mes responsabilités. Depuis que je suis plus connu, je peux être vu comme un symbole. Et pourtant, je suis un artiste, et donc je ne peux être motivé que par des choix artistiques. Je peux reconnaître mes responsabilités, je peux les connaître, mais mes choix doivent être des choix d'artiste. Parce que si je laisse mes choix être dictés par mes responsabilités, je ne crée pas de l'art. Je crée une réponse à la responsabilité. Et cela ne rend service à personne.
Ce qui est intéressant, c'est que tout un tas de réflexions très argumentées donnent un cinéma qui est romanesque et d'une fluidité extraordinaire. C'est un film inter, hein, je vous le rappelle.
Voilà, si Beale Street pouvait parler, signé Barry Jenkins, et ça sort aujourd'hui, mercredi.
C'est très très beau. Hein.
Merci Eva.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Franck Madvon. Ce soir, Franck, chaque année, les services de renseignement américains publient leur rapport sur les grandes menaces mondiales. Un document qui a été publié hier. Principal enseignement, les chefs du renseignement ne sont pas du tout du même avis que Donald Trump sur les grands axes de la politique étrangère. Et c'est votre Monde à l'envers du soir.
Oui, c'est un comble. En clair, les grandes agences du renseignement américain n'ont pas la même vision du monde que leur président. Leurs priorités ne sont pas celles de la Maison Blanche. Et ce rapport, je vous l'ai amené ici, en est une preuve éloquente. Ça s'appelle l'estimation mondiale des menaces, 42 pages. C'est signé Dan Coats, chef du renseignement américain. Il coordonne en fait le travail des agences de sécurité. Il supervise 1500 employés qui connaissent parfaitement leur zone. Et que nous dit ce rapport ? Eh bien, par exemple, que l'Iran continue à respecter l'accord sur le nucléaire de 2015. Téhéran ne cherche pas à développer l'arme nucléaire. Donald Trump avait pourtant juré le contraire quand il a annoncé en mai dernier, souvenez-vous, que les États-Unis se retiraient du texte. Pour lui, les Iraniens trahissaient l'esprit de l'accord. Selon ce rapport, le seul motif en fait qui incite l'Iran à envisager une sortie de cet accord de 2015, c'est l'absence de retombées économiques. Et pour cause, c'est en partie lié au rétablissement des sanctions américaines.
Et les renseignements américains contredisent particulièrement Trump sur la Corée du Nord.
Alors là, c'est encore plus frappant quand Donald Trump a rencontré Kim Jong-un en juin à Singapour. Il s'est réjoui sur Twitter. Il n'y a plus de menace nucléaire nord-coréenne. Totalement faux, nous dit aujourd'hui le renseignement américain. La Corée du Nord est citée 27 fois dans ce rapport où l'on peut lire « Il est peu probable que Pyongyang abandonne ses armes nucléaires et ses capacités de production » ou encore « Pour les dirigeants nord-coréens, l'arme nucléaire est critique pour la survie du régime ». D'après la patronne de la CIA, Gina Haspel, le pays s'est engagé à développer un missile longue portée qui puisse menacer directement les États-Unis. De quoi tempérer l'optimisme de Donald Trump qui doit rencontrer le mois prochain Kim Jong-un pour un nouveau sommet. Autre dossier, la guerre contre le groupe État islamique. « Nous avons gagné », avait plastronné Trump, « nous les avons battus sévèrement ». Eh bien non, l'organisation djihadiste va continuer, peut-on lire, à attiser la violence en Syrie. Elle contrôle encore des milliers de djihadistes selon Dan Coats. On devine la question entre les lignes, fallait-il retirer les troupes américaines de Syrie, comme l'a annoncé Trump en décembre.
Alors, sans surprise, Franck, Donald Trump, évidemment, n'a pas beaucoup apprécié ce rapport.
Et il l'a fait savoir aujourd'hui, sur Twitter, bien sûr, 5 tweets pour répondre aux renseignements américains. En substance, sur l'État islamique, la Corée du Nord, l'Afghanistan, on a fait beaucoup de progrès. Et sur l'Iran, les gens du renseignement sont, écrit-il, extrêmement naïfs. L'Iran est une source de danger, de conflit. Le renseignement devrait retourner à l'école. Évidemment, Donald Trump nous a habitués, Fabienne, à des jugements aussi péremptoires, mais difficile de ne pas s'étonner d'un tel fossé entre la Maison Blanche et le renseignement. C'est sans doute du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Il peut y avoir des divergences à l'occasion. Après tout, le travail des agences porte sur des faits, pas sur des idéologies. Mais c'est bien là le problème. Donald Trump s'intéresse peu aux faits. Il fait plus confiance à lui-même qu'à ses propres services et sur des enjeux majeurs de politique étrangère. Cette contradiction peut créer des dommages considérables.
Franck Madvon et Le Monde à l'envers, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci Franck. À demain, on a une belle soirée devant nous. À vos questions, tiens déjà pour le téléphone sonne et c'est juste après ça.